La vie, c'est comme les montagnes russes. Une phrase du bon sens populaire qui nous exaspère quand le moral est bien encaissé au fond de la vallée. Qui aurait dit qu'un jour, boire un café au comptoir relèverait de la grande aventure ? Alors ce matin, Pop & Co raconte un parcours et un disque de haute intensité. Pop & Co et Pop & Pop Satori, titre du troisième album d'Étienne Dao, paru il y a 35 ans pile. Satori est un mot qu'Étienne Dao a pioché dans Satori à Paris, un roman de Jack Kerouac, où il écrit « Satori, mot japonais désignant une illumination soudaine, un réveil brusque ou tout simplement un éblouissement de l'œil. » Pop Satori est un album de l'extase et de l'inquiétude dans le même mouvement, un polaroïd de la mi-temps des années 80 autant qu'un dessin pour le futur. Et une bande-son pour toute la vie. Pour toute la vie, ça fait promesse de gosse. C'est quoi, 1986 ? C'est le Minitel dans le salon et les TGV Orange. C'est le journal Le Parisien qui écrit que la Tour Eiffel va être déplacée à Marne-la-Vallée parce qu'à l'époque, on fête encore le 1er avril. C'est Jacky Sardou qui fait la pub d'une colle pour appareil dentaire. C'est la naissance d'Alex Turner, futur leader du groupe anglais Arctic Monkeys. C'est le décès de Jean Genet et de Coluche aussi. C'est Thatcher et Mitterrand qui annoncent la construction du tunnel sous la Manche. C'est ce générique d'une émission jeunesse qui s'intitulait Minimag sur TF1 et qui faisait rien qu'à nous annoncer des changements.
Quel beau sommaire. Et on va commencer musical, parce qu'il y a eu une sorte de coup de balai dans le showbiz tricolore. Depuis quelques temps, les héritiers de Claude François commencent à laisser leur place à une nouvelle génération de chanteurs, la pop génération. Et derrière Étienne Dao, le précurseur, toute une bande de garçons et de filles venus de l'underground musical s'est engouffrée dans les hit-parades. Fini les belâtres bel an. Et Philippe Pierre-Adolphe s'est demandé si le bel Étienne était l'instigateur de ce complot pop.
Est-ce que j'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui avec la pop française des années 80, ça, c'est un peu comme autant des yéyés.
Oui,
qui dit oui, Françoise Hardy.
J'ai très bien ressenti ou pris conscience, je ne sais pas, que cette année, donc l'année 86, a marqué un tournant extrêmement important dans le show business, que subitement les gens de ma génération avaient pris un vrai coup de vieux, ce qui est normal d'ailleurs, et que était arrivé un tas de nouveaux chanteurs avec un style différent qui effectivement faisait paraître assez dépassé tout ce qui s'était fait avant.
1986 donc. Étienne Dao publie son troisième album, il sort même un 1er avril. Premier mot du premier tube de ce disque, Audace, indécence exigée. Je vous présente Arnold Turboust. C'est lui qui a notamment composé la mélodie de cette chanson, Épaule Tatou, et qui a co-réalisé l'album Pop Satori.
Est-ce que tu veux un croissant, Lulu ?
Rien du tout, merci beaucoup.
Nous sommes donc quatre, Étienne Dao, Arnold Turboust, Lucie Gossard, attachée de presse dite Lulu, et votre serviteuse.
Vous
Ça s'est passé à Londres, ville balise, dans la vie d'Étienne Dao, là où il s'échappe, là où il écrit. Cette fois, le studio s'appelait Guérilla, avec Arnold Turboust. Ils ont commencé à y enregistrer les premiers titres de l'album Pop Satori. C'est l'hiver, on est en 1985, et Londres, c'est quoi ?
Alors c'est une ville vraiment très pauvre. Hein. Toutes les maisons étaient à vendre. C'était un moment très créatif, il y avait beaucoup de clubs, beaucoup de concerts. Après les sessions, moi, j'avais besoin de sortir, donc je sortais jusqu'à pas d'heure et pour écrire aussi, pour trouver des idées. Et donc je rentrais au petit matin, parce qu'Arnold me foutait la pression, il me disait tout le temps « Alors, t'as des textes ?» Je disais « Oui, bien sûr !» J'avais rien. Donc il y avait, j'ai essayé d'écrire dans la nuit, j'arrivais avec des bouts de trucs, donc j'avais des bouts de papier partout. J'ai revu récemment un documentaire qu'avait fait Jean-Michel Gravier, notre ami Jean-Michel Gravier, qui était un journaliste fantastique, et plus là aujourd'hui.
Bon ben voilà un texte nul et pas drôle du tout, comme je les aime. On va peut-être essayer de le prendre. Je crois que ça peut fonctionner.
Et j'enregistre les voix d'Épaule Tatou, en fait. Souvent, je suis par terre en train d'écrire, dernier moment. Enfin, voilà, tout le disque a été fait comme ça. C'était vraiment... Tout s'est fait dans une espèce de pression, d'urgence, dormant 14 secondes par nuit.
Audace, indécence exigée. Blocus pour qui souhaite s'immiscer.
Épaule Tatou, c'est une photo de la nuit de Londres, non ?
Oui,
c'est, ça se passe dans un club.
J'étais beaucoup dans ce club qui s'appelait Le Tabou. Et donc là, quand on poussait la porte du Tabou, c'était un monde qui s'ouvrait. C'est-à-dire que vraiment, c'était une espèce de public complètement bigarré, maquillé, travesti, drogué. Enfin, vraiment... Vraiment super, quoi. Et c'était une fille que j'avais rencontrée qui s'appelait Suzy, qui était entièrement tatouée de la tête aux pieds, qui était extraordinaire. Vraiment une apparition, vraiment une très grande beauté. Et puis, une espèce de personnage comme ça, qui sort du cadre, des clous. J'avais été vraiment impressionné par elle. Et donc, voilà, la chanson, c'est elle. C'est elle, c'est le tabou, c'est la nuit londonienne.
Avec deux O, et donc un club de Londres des années 80, près de Leicester Square. Mais le tabou T-A-B-O-U, c'est aussi un club de jazz d'après-guerre, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le texte d'Épaule Tatou fait référence aux deux, la chanson Télescope l'année 86 et l'année 47, deux moments où la jeunesse connaît une épiphanie. Forcément la première fois qu'on chante sur ce refrain-là, on n'y pense pas, on danse surtout.
Ça enlève un petit peu les contours et les aspérités en fait, le tube, le fait que quelque chose passe beaucoup en radio. On entend un truc à la radio, donc il y a une espèce de banalité comme ça qui s'installe. Effectivement, le texte est beaucoup plus malicieux et rigolo que ça. C'est pas une volonté de planquer des choses, c'est que c'est assez rigolo. Ça permet peut-être 35 ans après de découvrir un texte.
C'est-à-dire que...
C'est beaucoup plus fort d'avancer en crabe.
C'est-à-dire ?
Ben voilà, on vous voit pas arriver, puis voilà, vous faites passer des petits messages.
C'est
après, comprend qui veut, ou qui peut. D'ailleurs, l'album s'ouvre par audace, indécence. Enfin, c'est les deux premiers mots, parce que le premier titre est instrumental. Il y avait cette musique très générique de film qu'avait fait Arnold, qui était vraiment top. Il y avait vaguement des textes, enfin comme des chœurs qui disaient le pop Satori n'est pas un pas qui se danse froid, ça non
ouais,
qui,
c'est ça, ouais.
Une phrase idiote, mais en même temps, c'est un album pour la danse en fait, pour les clubs en fait. C'était ouais, vraiment ça.
Le pop
Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Bonjour.
Dans les années 80, tous les jours ouvrés, à 13h, on entendait ce bonjour-là sur TF1. Mourouzi, sa gouaille, sa voix de fumeur, ses cernes de bambochard. Mourouzi Yves, présentateur du journal de la mi-journée et figure connue des nuits parisiennes. Pour cette édition-là, en avril 1980, il y avait une grosse actu.
Alors comme nous sommes le 1er avril, eh bien nous devons fêter aujourd'hui un anniversaire, celui de la création de ce qu'on pourrait appeler véritablement une institution. Non, ce n'est pas de la publicité d'en parler, cela fait 2 ans que le Palace vit une nouvelle vie à Paris. Et sans doute cet établissement a modifié un certain nombre de comportements des noctambules ici à Paris, mais aussi ailleurs à travers la France et ailleurs à travers le monde.
Le Palace, phare des nuits parisiennes quand la capitale était avide d'insouciance et de fiesta, le Palace, un des nightclubs ouverts par Fabrice Aimer.
La fête, parce que c'est important, c'est très directement enraciné dans les traditions, la fête. Et je pense que si nous l'avons ressuscité avec tellement de succès au Palace, c'est précisément parce qu'elle correspondait à une tradition. Le respect du calendrier, par exemple, dans les fêtes, le Mardi Gras, la mi-carême, prouve à quel point les gens ont besoin de retrouver leur identité dans la fête.
Et maintenant la fête.
Il y a avec lui Fabrice Aimer pour faire le parallèle entre la mi-carême et le Palace.
Je peux un petit peu vous décrire là. Je suis l'hymne à la moule. C'est à quoi ça sert la moule? La moule ça sert à ça, et ainsi de suite. Voilà.
J'ai du mal à enfiler mon micro entre vos coquilles. C'est la première fois que vous vous déguisez?
Non, j'étais en lingot d'or la dernière fois.
Et me revoilà.
Ça va.
Bienvenue chez Christophe Comte, journaliste. Vous l'avez déjà entendu dans un Pop & Co dédié à Nino Ferrer. Or, Christophe Comte est aussi l'auteur d'une biographie d'Étienne Daho et d'un documentaire intitulé « Daho par Daho » réalisé par Sylvain Bergère. Donc voilà pourquoi nous revoilà.
Au moment de la sortie de Pop Satori, c'est un peu presque une sorte de zénith de la pop française telle qu'on va l'entendre dans les années 80, puisque après l'euphorie du début, c'est-à-dire l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'arrivée forcément à la suite de ça des radios FM, qui vont être quand même pour grande part dans l'émergence de cette scène, Pop Satori arrive au milieu de la décennie comme ça, comme une sorte de point de bascule à la fois, à mon sens, c'est vraiment le moment extatique suprême de cette génération-là, est presque le début de son appréhension de l'avenir. Il y a quelque chose dans l'air de cette génération qui est de profiter un maximum de ce qui se passe pour eux, de la peur que ça s'éteigne très vite. Et je pense que Pop Satori encapsule ce moment-là de manière presque involontaire, mais Étienne est presque devenu le porte-parole. À l'époque, on parle de Daomania, donc c'est quand même pas rien. Il est vraiment la locomotive d'une génération d'artistes. Et tous ces artistes-là, ceux qui sont sur le disque, hein, comme Élie Médéros, comme Arnold Turboust, et ceux qui n'y sont pas, mais qui d'une certaine manière appartiennent à cette génération-là, qui vont arriver juste après, c'est-à-dire Lerita Mitsuko, l'affaire Louis Trio, tout un tas de groupes comme ça qui représentent vraiment la pop française comme on ne l'avait pas connue jusqu'ici, vivent un peu de cette euphorie-là. Et peut-être que Pop Satori, c'est l'album un peu moteur de ça, c'est l'appartement témoin de cette génération-là.
Naïf sur la lumière et aussi sur
bouteille. En guise d'épilogue, ils font le dialogue. Mission, tous deux, au fond et synchro.
C'est un album pour les clubs, et en même temps, vous dites laissons-nous bercer d'illusions bernées. Enfin,
oui.
C'est aussi la fin de la fiesta.
C'est avant la gueule de bois.
Étienne Dao.
C'est vraiment les dernières années de la fête à Londres et à Paris, avant vraiment l'arrivée massive du sida. La gueule de bois, quoi, vraiment, c'est ça. Mais il y avait encore, à ce moment-là, cette espèce de légèreté où tout était absolument possible.
Arnold Turboust.
C'est ça, c'est un peu la fin d'une époque, une fermeture d'iris. Enfin, tout était possible et d'un seul coup, tout a commencé à se refermer. Enfin, différemment, en tout cas, exister différemment.
Enfin, quand on compare à aujourd'hui, c'était quand même, malgré tout, c'était quand même assez dément.
C'était vraiment la bombe.
C'était quand même assez génial. Donc, c'est une gueule de bois très relative dans laquelle qu'on aimerait bien revivre, en fait.
Mais dès 1984, on parle de plus en plus d'un virus qu'on désigne par son acronyme, SIDA. 1986. Le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose et...
Mes chers compatriotes...
Le 17 mars 1986, François Mitterrand, président de la République, s'adresse aux Français pour prendre acte du résultat des élections législatives.
Vous avez élu dimanche une majorité nouvelle de députés à l'Assemblée nationale. Cette majorité est faible numériquement, mais elle existe.
Traduction, j'ai les boules, mais je suis démocrate.
Je forme des vœux pour que la majorité nouvelle réussisse dans l'action qu'elle est maintenant en mesure d'entreprendre selon les vues qui sont les siennes.
Traduction, Jacques Chirac va en voir de toutes les couleurs.
Mes chers compatriotes, au-delà des divergences bien naturelles qui s'expriment à chaque consultation électorale, ce qui nous rassemble est plus puissant encore, c'est l'amour de notre patrie. Vive la République, vive la France.
Et pendant ce temps...
Inter, Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Et aujourd'hui, Pop & Co et Pop & Pop Satori, titre du troisième album d'Étienne Dao, paru il y a 35 ans. Extrait de l'émission Décibels de nuit, présenté par Jean-Loup Janer, le 7 juin 1985.
Je ne me pose pas la question de savoir si je suis rock, pop, variette ou autre. Ça, c'est pas mon problème.
Mais t'es rock, parce que j'allais dire plein de gens.
De par les références, ouais. De par les références, parce que c'est vrai que c'est pas Peter et Sloan, quoi, si tu veux.
Besoin de rien, envie de toi, de Peter et Sloan, est un tube de cette année-là, 1985. Et Étienne Dao reçoit le bus d'acier. Dans certains articles de presse de l'époque, j'ai lu la bûche d'acier. Mais non, le prix de l'artiste rock de l'année est organisé par le bus et pas par le bûche palladium. Avant Dao, donc, les lauréats furent Alain Bachung, Charles-Élie Couture, Indochine et Lizzie Mercier-Desclous. Mmh. 1985, donc. Une chanson du futur album Pop Satori est aux avant-postes. Tomber pour la France, qu'on a écouté en dansant tout seul dans nos chambres avec un sens interdit punaisé à la porte. Bebop, ce sont les premiers mots de la chanson, encore une allusion à la bande-son de la jeunesse d'après-guerre. Mais ça racontait surtout Paris et une vie à toute vitesse, et on savait qu'on serait pas taillé pour.
Bebop, pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni fortune, je passe mon temps à faire non. Électronique, ce nous des amours.
Et ce son de cisaille que vous venez d'entendre et qui signe la chanson, ça fait penser à ceci. Extrait de Owner of a Lonely Heart du groupe Yes. Bon, vous écouterez la suite chez vous. Ce son sur lequel j'insiste, c'est un Fairlight, synthé devenu signature sonore de l'époque, et c'est Christophe Comte, journaliste, qui vous en dit plus.
Ça, c'est vraiment, pour le coup, un synthé très marqué de cette époque-là. Et en même temps, ça apporte vraiment quelque chose qui n'existait pas dans la musique française à l'époque. Et donc, du coup, il y a quand même une part d'avant-garde dans le cadre d'une pop qu'on pourrait dire presque grand public. Avec le recul, on peut se dire que oui, la production de Tomber pour la France et la production en général de Pop Satori est très novatrice par rapport à tout ce qui se faisait autour, y compris dans la musique synthétique qu'on appelait la synth-pop ou la techno-pop. Dao, c'est encore autre chose. C'est un mélange entre les yéyés des années 60 et la new wave. En mélangeant les deux, et Dao est vraiment le centre de ça, puisqu'il est à la fois fan de Françoise Hardy, de Jacques Dutronc, de tout ça, et puis également de Élie Jacquenot, des Stinky Toys, de Marquis de Sade, et donc d'une certaine manière, il est lui, avec Jacquenot d'ailleurs, le point de jonction entre les deux. Et le mélange, peut-être de cette légèreté, même de cette superficialité des années 60, avec quelque chose finalement de plus mélancolique, de plus, peut-être plus urbain, plus sombre de la new wave, du punk, ce mélange-là, avec l'arrivée évidemment des synthés et puis toute l'influence anglaise, parce que malgré tout, dans Pop Satori, on entend l'écho de ce qui se passe exactement au même moment en Angleterre, c'est-à-dire cette génération des Depeche Mode, des Human League, enfin toute cette pop électronique. Donc on parle de pop en Angleterre. Et en France, pour la première fois, on a un équivalent presque à armes égales d'une chanson comme ça qui arrive à se travestir, ou en tout cas à s'habiller avec les habits de la pop anglaise du moment. Et ce qui n'a pas été réussi finalement tellement dans les années 60 est parfaitement réussi à ce moment-là.
C'est moi.
C'est mon téléphone. Ah, pardon.
Retour aux côtés d'Étienne Dao et d'Arnold Turboust, l'un et l'autre sont partis à Londres pour travailler avec un producteur qui s'appelle William Orbit. Par la suite, il travaillera avec Madonna, Prince ou Blur. Mais en 1985, William Orbit est inconnu et c'est avec lui qu'Étienne Dao veut enregistrer.
J'avais découvert un album de son groupe. En fait, c'est un trio au départ qui s'appelait Torch Song. Et ils ont fait un premier album qui s'appelle Wish Thing. Et... Je suis tombé amoureux de ce disque, comme on tombe amoureux d'albums et qu'on écoute en boucle, en perfusion, et je voulais ça.
Vous vouliez quoi ?
Oh, c'était vraiment le début de la musique électronique un peu ambitieuse. Même s'il y a eu des choses électroniques très bien avant, de la pop électro ou de la new wave électro, là il y avait quelque chose d'un peu plus cinématographique, un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus large. William Orbit a vraiment inventé quelque chose à ce moment-là, et que j'ai trouvé extraordinaire, et j'avais envie d'avoir un album avec ce son-là, mais en français.
Une fois arrivé à Londres, au studio Guerilla, c'est l'enthousiasme, un peu modéré quand même. Arnold Turboust.
On a commencé à enregistrer. Quant à moi, on m'avait préparé une pièce spéciale avec des jeux vidéo, parce qu'on ne voulait pas que je sois en studio au début. J'étais puni.
Pourquoi ?
Je pense qu'il y avait. Ils pensaient qu'il n'y avait pas besoin, que je n'étais pas nécessaire, si vous voulez. Et donc, je suis resté un jour. Ce fut long déjà. Un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Moi, j'ai rentré en France, je n'ai pas que ça à faire. Et puis, en fait, Étienne a insisté, mais si, il faut qu'il vienne avec nous. Tu te souviens, Étienne, comment c'était ?
Arnold Turboust finira par entrer en studio et William Orbit va en sortir. Il disparaît, sans rien dire. Orbit n'aurait pas été payé par Virgin, la maison de disques d'Étienne Dao. Arnold Turboust et lui finissent par travailler avec Rico Conning, l'ingénieur du son du groupe Torch Song. et ils vont concevoir le disque, tous les trois.
C'est le moment où vraiment on est passé à la production, parce qu'on a été contraint de, passer à la production et de prendre notre destin un peu en main.
Vous auriez appris quoi ? C'était découvrir quelle façon de faire.
Je me souviens, je faisais comme un arpège, et moi je voulais qu'il... Enfin voilà, je faisais tabadabad, tabadabad, et moi je faisais toutes les notes, avec toutes les répétitions. Et William vient vers moi, il me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Je dis, parce que je veux que ça se répète, et puis de moins en moins fort, enfin, moi je faisais manuellement avec le bouton. Il me dit, it's just a delay, Arnold. I do it for you.
Ça veut dire quoi, it's just a delay ?
C'est juste un effet. C'est juste un effet, c'est un délai qui va te permettre de répéter ta séquence telle que tu vas la régler, telle que tu veux, par rapport au temps, voilà.
Sans que toi, t'aies à le faire.
Voilà, non mais moi j'étais vraiment old way. Et ça, et puis je me souviens aussi, ces sons qu'il nous faisait, c'était quand même, ça sonnait super bien, quoi, c'était vraiment... Ouais,
très en avance, ouais. Sur les samples, par exemple. Ouais. Mais c'était vraiment un magasin de jouets absolument incroyable. Enfin, pour un musicien, c'était phénoménal. On a vraiment eu la sensation de... d'apprendre quelque chose, et puis surtout la sensation vraiment grisante de mélanger les choses et de fabriquer, d'inventer quelque chose, en fait, ouais. Finalement. On a inventé quelque chose sans même s'en apercevoir, en fait. C'est toujours tout autorisé, c'est pour ça que la pop est fantastique, c'est qu'on prend tout, partout, et on mélange, et on fait quelque chose qui devient personnel, qui devient sa signature, en prenant tout ce qu'on aime, et en citant ses sources.
Citer ses sources. Étienne Dao l'a fait dans un portrait qui s'intitule Cowboy, réalisé par Alain Weiss pour Les Enfants du Rock en 1985. Il le fait aussi en face B du maxi 45 tours de Tomber pour la France, où il reprend Serge Gainsbourg, Françoise Hardy et Syd Barrett. Syd Barrett, cerveau du premier album de Pink Floyd, Tombé dans l'oubli à l'époque, Barrett dans l'oubli, hein, pas Pink Floyd, on est d'accord. La dernière chanson de l'album Pop Satori est aussi une reprise d'un morceau de Syd Barrett, donc Syd Barrett est une obsession, puisqu'il va encore hanter Blitz, dernier album de chansons inédites d'Étienne Dao. Citer ses sources encore et toujours jusqu'à aujourd'hui. Pour Pop Satori, Étienne Dao déniche une autre pépite inconnue qu'il livre au plus grand nombre. C'est une reprise de Love at First Sight, issue du seul et unique album de The Gist, un projet mené par le gallois Stuart Moxham, qui a composé cette chanson. Et par Étienne Dao, la chanson est devenue Paris le Flore, un titre produit par William Orbit.
Il y a deux guests qui devaient jouer sur cet album, il y a Chet Baker et il y a Nico aussi, que je suis allé chercher, je ne sais pas si tu te souviens, à Brixton. Je ne l'ai jamais trouvé, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, elle m'avait donné son adresse et en fait je n'ai pas trouvé l'adresse qu'elle m'avait donnée. Donc je suis rentré bredouille.
Et pourquoi Chet Baker ?
C'est vraiment le chanteur qui m'a le plus inspiré, vocalement. Parce que je trouvais qu'on pouvait dire des choses très profondes et très graves, sans forcer du tout le trait, en étant très doux comme ça. Et donc Chet Baker, c'est vraiment mon inspiration vocale, complètement.
Parfois, les gens qui chantent n'ont pas du tout la même voix parlée. Vous, c'est pas votre cas.
Parce que j'ai parlé comme je chantais, j'ai pas appris. Ce qui était vraiment un handicap à la base est devenu une signature. Mais ça, c'est un coup de bol.
Quand vous faites écouter le disque à Virgin, comment ça se passe?
Ouais, ça s'est très mal passé. Nous, on était très très contents. Donc, on est arrivé avec un chariot de cacahuètes, de noix de cajou et compagnie pour fêter l'écoute. Et l'écoute a été mais vraiment polaire, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'est barré, l'air gêné, petit à petit, du style bientôt et tout ça, sans aucun commentaire. Mais quand on est content de soi, quand on est fier de soi, ça rend très imperméable en fait aux critiques. Et je me souviens qu'on a raflé ce qui restait de
des courses qu'on avait fait au supermarché du coin, et on avait fêté ça chez moi avec Rico et Arnold. Ouais. Ça s'était tellement mal passé que c'était presque drôle.
Vous savez déjà commencé avec Tomber pour la France. Enfin, ils n'aimaient pas trop ce titre. C'est pas là qu'ils avaient dit que c'était un fatras de synthé. Étienne, je dois dire, est très fort parce qu'il a su imposer aussi cet album. Le label, je pense, aurait laissé tomber beaucoup plus rapidement que ça s'il n'avait pas été là vraiment en poussant, en disant c'est ça, je suis sûr.
Je m'en foutais un peu. Enfin, c'est pas que je m'en foutais. On a toujours besoin d'avoir, d'être entouré, d'avoir une adhésion, de sentir que ce qu'on a fait est apprécié. C'est vraiment important. Mais quand on sent qu'il n'y a pas cette chose-là, il faut continuer à suivre sa ligne, à suivre sa vision. Et en fait, on a eu de la chance parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans les médias. Tout d'un coup, ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'un peu différent. Et puis surtout la tournée. On a commencé une petite tournée dans des toutes petites salles. Il a fallu grandir. Et puis on jouait dans des patinoires à la fin. Donc on a été dépassés. Donc quand on fait une chanson, on a envie de la partager avec les autres. Donc ce succès, c'était ça aussi. Mais en même temps, je commençais à voir tous les revers de tout ça. Et puis aussi, commencer à accuser la fatigue physique. Hein. Voilà, d'avoir une vie de patachon, de travailler comme un fou, et d'avoir enquillé toutes ces choses-là. Puis malgré tout le succès, quand c'est ce qu'on attend et que c'est pas le fond de sa nature de se montrer, au début c'est amusant. Et puis après, finalement, c'est comme une espèce de truc qui arrive dans son salon qu'on ne sait pas gérer. Quoi. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai pas du tout su comment faire avec ça. Alors que j'aurais dû m'en réjouir et que voilà, donc je n'osais pas vraiment en parler parce que il y a beaucoup de mes petits camarades qui auraient rêvé d'être à ma place. Donc je suis parti en Angleterre et j'ai commencé à travailler sur le prochain album qui s'appelait Pour nos vies martiennes. Et puis voilà.
Et voilà Christophe Comte.
La Daomania est presque c'est entre la Clopomania et la Bruelmania. Il n'y a pas eu d'autres manias. Donc Dao fait partie de ces gens qui ont, dans l'histoire de la chanson française, ont été les moteurs d'une génération. C'est pas rien.
L'album Pop Satori, il y aura une suite 10 ans plus tard. Le disque s'intitule Eden et adopte le même principe, capter les sons de Londres avec des textes en français. Ambition toujours menée par Étienne Dao et Arnold Turboust, que je remercie au passage. Merci aussi à Christophe Comte, auteur d'une biographie simplement intitulée Dao, paru chez Flammarion. Christophe Comte a aussi signé le documentaire Dao par Dao avec Sylvain Bergère, que vous pouvez visionner en ligne.